Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepépé.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco Totti, un gol pazzesco, pazzesco per il 2-0.
Kaká in percussione, Xhaka l'ingresso in aria ancora, Kaká davanti al portiere, Kaká, rete, 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 Kaká.
Pallone che arriva, Trezeguet, Toni! Pirlo ancora, Pirlo di tecco, tiro, grosso, grosso, gol di grosso.
Prova a girarsi Icardi, destro secco, rete, rete, proprio lui, il capitano, fa esplodere San Siro.
Avanti Cavani, avanti Matador, avanti Matador! Sei tutti noi Matador! Ci provo con il destro!
E la rete! Si gonfia la rete! Si gonfia la rete! Si gonfia la rete! Matador!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le troisième épisode de la deuxième saison du podcast Calcio et Pépé, qui est en fait, on va vous l'avouer tout de suite, un numéro de bis. La semaine passée, après avoir fait 2h20 d'analyse et de débat au sujet de l'actu du football italien, on s'est dit que c'était indispensable de couper cet épisode en deux. Nous revoilà donc pour notre partie thématique. Avant de vous révéler le sujet, je précise que je suis toujours avec Guillaume Maillard-Passini. Salut Guillaume.
Bonjour monsieur Anne Crochet, bonjour à toutes et bonjour à tous.
Alors Guillaume, tu t'es bien remis de nos 2h20 de débat de la semaine dernière.
Ce fut intense, très prenant et je ne vais pas te mentir, j'ai fini un peu lessivé. Ouais. Mais c'est vrai que c'était, bah forcément comme on est plus hebdomadaire, on a plus de choses à dire et forcément ça prend plus de temps, mais c'était toujours… Est-ce que vraiment il y a du temps pour la Serie A? On n'est jamais limité.
Exactement. Et puis ton pari s'est révélé exact puisque quelques heures après l'enregistrement du podcast, Stefano Pioli a été nommé nouvel entraîneur de l'AC Milan.
Exactement, exactement.
Donc on aura le temps d'y revenir le mois prochain puisqu'on refera un podcast d'actu aux alentours du 10 novembre à peu près.
Bah de toute façon, il y a une trêve par mois donc.
Exactement, donc entre le 1er et le 10 novembre exactement. Alors Guillaume, tout d'abord, on va commencer par remercier nos auditeurs pour leur fidélité et les nouveaux qui nous rejoignent chaque semaine ou chaque mois, puisqu'on bat avec chaque nouvel épisode notre record d'écoute, et ça, c'est quand même plutôt cool. Ensuite, on va vous rappeler que si vous aimez notre travail, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, c'est très important pour nous. Cela nous permet de remonter dans les charts, comme on dit en Angleterre, et de faire découvrir le podcast à un maximum de personnes. Vous pouvez aussi nous recommander sur toutes les plateformes audio comme Spotify et Deezer. Évidemment, nous suivre sur Twitter puisqu'on met à chaque fois quelques petites choses et notamment les résultats de notre fameuse Ligue MPG avec deux divisions, la division des VIP, entre guillemets, des personnes choisies, et celle des auditeurs. D'ailleurs, la Ligue des auditeurs, nos auditeurs, ont essayé de trouver, Guillaume, avec nos indices donnés la semaine dernière, le sujet de ce podcast. Et figure-toi que personne n'a trouvé. On rappelle quand même nos indices de la semaine dernière. Il s'agissait de Pippo Inzaghi, Marcelo Salas, Antonio Cassano et Zinedine Zidane. Notre thème du jour est donc consacré au Mercato Estival 2001 en Serie A. Et en gros, l'objet de ce podcast, c'est de refaire le Mercato 2001 de Serie A en analysant les transferts et en regardant les performances des joueurs transférés et aussi les traces laissées dans leur club. Alors on fait un petit rappel contexte avant de partir dans les joueurs, sachant qu'on a fait une liste d'une 20-25 joueurs à peu près, notamment évidemment les plus gros transferts et puis quelques petites choses assez amusantes. Le contexte, nous sommes en mois de juin 2001, la saison 2000-2001 s'est achevée sur le Scudetto de la Roma, l'année d'avant c'était la Lazio, cela fait donc 2 ans que les clubs romains raflent le titre majeur, au nez à la barbe des clubs milanais et de la Juve, autant dire que c'est pas arrivé souvent dans l'histoire contemporaine ou du moins assez récente de la Serie A. Petite chose encore au niveau du contexte, et ça c'est assez dramatique, aucun club italien en quart de finale de Ligue des Champions cette année-là. L'Inter est éliminé par Helsingborg en 3e tour préliminaire, la Juve est éliminée en groupe par la Corogne, le Panathinaikos et Hambourg. Et quant à la Lazio et le Milan, ils sont éliminés au 2e tour de la phase de groupe, puisqu'à l'époque, la phase de groupe était sur 2 tours. Voilà pour le contexte, donc c'était pas forcément fameux pour les grands clubs italiens du nord de l'Italie, et on va vite voir qu'ils ont beaucoup, et de manière assez conséquente, réagi sur le marché des transferts 2001. Alors Guillaume, on commence notre liste par, évidemment, le transfert le plus important de cet été-là, c'est Zinedine Zidane, qui passe de la Juve au Real, pour un montant de 75 millions d'euros, et on a décidé de commencer cette fois-ci par le haut du panier, mais en fait c'est tout simple, c'est que le transfert de Zidane va enchaîner tout un tas de réactions et de transferts liés à ce départ. C'est à l'époque le record de transfert, 75 millions d'euros, il devient le joueur le plus cher du monde. Maintenant aujourd'hui ça fait presque un peu sourire quand on connaît un peu les montants, un peu plus de 15 ans plus tard, des transferts de Neymar ou de Kylian Mbappé par exemple, pour ne citer que. Mais à l'époque, en tout cas, c'était le joueur le plus cher du monde. La Juve a pu amorcer un tournant à ce moment-là, avec une individualité forte en moins, donc le départ de Zidane, mais surtout un collectif bien plus fort, et on va y revenir plus tard, puisque 3 joueurs d'une importance capitale pour les années à suivre de la Juve sont arrivés dans le club turinois. Alors Zidane y part à 29 ans, après 5 saisons à la Juve. Au niveau des trophées, il gagne 2 Scudetti en 97-98, une coupe intercontinentale, une super coupe d'Italie et une super coupe de l'UEFA. Il n'est pas forcément dans la meilleure période de la Juve à ce moment-là. Il faut dire aussi que la fin des années 90, début 2000, c'est aussi, je pense, la plus grosse densité qui a existé en Serie A de clubs de haut niveau. Et aujourd'hui, dire que, par exemple, des clubs comme Parme, ou comme la Lazio était quasiment aussi fort que la Juve, l'Inter et le Milan, ça fait presque sourire, parce qu'aujourd'hui, ces clubs-là sont loin, mais à l'époque, le fameux à l'époque, ils étaient tout en haut. Parme avait gagné une Coupe d'Europe, la Lazio aussi, puisque elle avait gagné une C2, je crois, Coupe des Coupes dans les années 90. Il y a aussi l'Inter qui gagne la fameuse C3 face à la Lazio, toujours. Avec le fameux but de Ronaldo au Parc des Princes. Bref, on a une densité de clubs qui est très importante. Et Zidane est tombé dans cette période-là. Donc certes, il a 2 Scudetti, mais par exemple aussi sur l'échelle européenne, c'était un peu plus compliqué du côté de la Juve. Quel souvenir tu gardes, toi, Guillaume, de Zidane en marqueur vraiment important? Moi, j'ai mis que c'était joueur élégant, les gestes techniques évidemment incroyables. Et puis le dépositeur du jeu turinois à ce moment-là.
Bah écoute, Zidane, il y aurait tellement de choses à dire qu'il, je pense qu'il faudrait 3-4 heures. Et encore, ce que je peux retenir de Zidane, c'est sa gestuelle.
Ouais.
Sur sa première prise de balle, ses contrôles. c'était vraiment un joueur hors norme. Il est resté, comme tu as dit, le joueur le plus cher pendant quelques temps. Aujourd'hui, alors le transfert au total, ça, tu m'avais dit, ça a coûté
75.
Combien au total? 75, voilà. Donc aujourd'hui, ça coûtera à peu près une jambe, ouais, probablement, de Zidane. Mais voilà, c'est un joueur qu'on ne présente même plus. Il fait partie des meilleurs joueurs de l'histoire de la Juve, c'est évident, qui a toujours eu aussi une colonie française importante, hein, à part Pepe Pini, Trezeguet et j'en passe, mais évidemment qu'il laisse une trace indélébile à la Juve, en bien comme en mal, parce qu'on se rappelle aussi ses coups de sang,
oui,
qu'il a toujours eu dans sa carrière d'ailleurs. Hein, c'est
une constante tout au long de sa carrière.
Exactement, avec l'apogée de ça malheureusement en finale 2006. Entre la France et l'Italie, mais au-delà de ça, on se souvient de Zidane pour sa technique hors norme, pour sa cheville, pour sa gestuelle, pour ses buts, pour sa vision du jeu. C'était vraiment un joueur. Ça restera évidemment l'un des meilleurs joueurs de l'histoire même du football, parce que voilà, c'est ZZ, quoi. Voilà, c'est celui qui marque des buts en 98 avec les Bleus en finale. Voilà, c'est un joueur qui a marqué l'histoire de la Juve et l'histoire de plus globalement du championnat italien.
Alors, petite anecdote sur Zidane, ouais. Ancelotti qui a été son entraîneur à la Juve, qui est fortement influencé par Sacchi, dont il avait été l'adjoint à la Coupe du Monde 94, ne jurait à l'époque que par le 4-4-2, qui était évidemment en vigueur et de manière très importante en Italie. Et en arrivant à la Juve, le problème qu'a rencontré Ancelotti, il le raconte plus tard dans plusieurs interviews, c'est qu'il ne pouvait pas mettre Zidane dans un 4-4-2. Un peu plus tard dans sa carrière, Zidane a joué dans un rôle d'espèce de meneur de jeu excentré côté gauche. Mais au début de sa carrière, c'était un pur au début et au milieu de sa carrière, c'était un pur numéro 10. Et Ancelotti s'est demandé comment intégrer Zidane à ce 4-4-2 avant de se dire que c'était impossible. Il a donc changé de système. Et parce que tout simplement, Zidane, là où il était le meilleur en Italie, c'était derrière les attaquants. Et son poste, évidemment, le plus connu en numéro 10. Et donc, c'est ce qui a apporté une petite touche de flexibilité, on va dire, chez Ancelotti, qui à l'époque ne jurait évidemment que par le 4-4-2 sacchien, ou sacchiesque, je sais pas comment on le dira. Mais voilà, c'est aussi la capacité des entraîneurs de s'adapter, malgré des préceptes très forts et parfois des idées arrêtées, à un joueur qui est évidemment au-dessus du lot et dont il faut prendre en considération sa meilleure position sur le terrain, pour qu'il ait le meilleur rendement pour l'équipe. Et ça, Ancelotti en a été capable. Et Zidane a évidemment été excellent positionné derrière les attaquants à la Juve. On va passer au deuxième joueur, Guillaume, de notre classement. Et c'est un joueur qui est une arrivée, comme on dit, une victime collatérale du transfert de Zidane. Mais oui, c'est pas une victime en l'occurrence. C'est une arrivée qui est liée à ce départ de Zidane au Real, c'est l'arrivée de Gianluigi Buffon qui passe de Parme à la Juve pour un montant de transfert qui a été évalué entre 52 et 54 millions d'euros à peu près.
Exactement, ouais, c'était 75 millions de lire plus ce transfert. Alors, en fait, on s'en souvient pas forcément, le transfert de Jonathan Bakini,
ouais,
qui a été ensuite suspendu plusieurs fois pour prise de cocaïne, et ensuite au final il a quand même été suspendu à vie, mais voilà, ça c'est pour
il aimait un peu trop la poudre, oui.
exactement, donc un peu comme Zidane qui est resté le joueur le plus cher de tous les temps pendant longtemps, Buffon lui était le gardien le plus cher,
ouais.
Voilà, il arrive de Parme, il a remplacé le désastreux Van der Sar,
oui, on y reviendra d'ailleurs un peu plus tard,
ouais. Ouais. Toi qui suis football néerlandais, voilà, c'est vrai que Van der Sar n'a pas vécu sa meilleure période à la Juve. Je pense que c'est un euphémisme de le dire. Donc Buffon, que dire à la Juve? Buffon, le palmarès, c'est 9 Scudetti, dont 2 retirés, évidemment, il faut le préciser. C'est 6 Super Coupes, c'est 5 Coupes d'Italie. Le grand regret, et je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est la Ligue des Champions.
Sachant qu'il a joué combien de finales?
Il en a joué 3.
Exactement.
Il en a perdu 3. Il en a perdu 3 contre Milan en 2003, ensuite il y a le Barça et le Real. Plus récemment, et voilà, je pense que tout le monde le voit et lui est promis à l'admettre, c'est vraiment son plus grand regret. En préparant le podcast, j'ai lu plusieurs interviews qu'il a fait, et c'est là que tu vois qu'il se répète souvent par rapport à des champions, c'est vraiment quelque, ouais, chose qui lui manque. Et je pense aussi que tu vois son retour à la Juve, au-delà de battre le record de Maldini, on en parlera après, c'est aussi dans l'espoir évidemment de gagner la Ligue des Champions cette saison avec la Juve. Donc ça, c'est son grand regret. Meilleure consolation pour lui, c'est le premier joueur à être élu meilleur joueur de la compétition, donc de la Ligue des Champions 2003,
oui.
Quand il perd la finale contre Milan, au penalty d'ailleurs, ce qui le fait rentrer vraiment dans le cœur des tifosi de la Juve. Et d'ailleurs, j'invite les tifosi de la Juve à réagir là-dessus. C'est quand il reste oui. En Série B. On sait qu'il y a eu un exode après la relégation en Série B. Pendant les périodes Calciopoli, et lui reste avec Del Piero, avec d'autres joueurs.
En exode, si je me souviens bien, on doit avoir Cannavaro, Vieira, Ibrahimovic.
Ouais. Évidemment, voilà.
L'exode. Et puis ceux qui restent, on a donc Buffon, Del Piero, Nedved, si je dis pas de bêtises.
Exactement.
Et puis quelques autres joueurs. Ouais.
Exactement.
Camoranesi, sans doute.
Exactement. Il devient officiellement capitaine en 2012 quand Del Piero arrête
sa
carrière. Alors voilà, ensuite, franchement, les belles années et on va dire le monologue de la Juve en Serie A où il gagne tous les titres en tant que capitaine. Alors il part en 2018. Alors ça, voilà, ça restera le premier départ de Buffon à la Juve. On pensait jamais qu'il reviendra, mais il est revenu une saison plus tard. Donc il part en 2018 pour le PSG. Écoute, j'ai envie de te dire, c'était quand même une surprise à l'époque.
Ouais.
Imaginez Buffon rejoindre Paris. Ça semblait improbable et pourtant c'était fait. On sait que la Juve à l'époque lui avait proposé une reconversion, ce qu'il lui n'a pas accepté parce que, d'ailleurs il l'a expliqué plusieurs fois, c'est qu'il se sent encore au niveau. Donc, et il y avait toujours aussi cette obsession avec les champions, donc il a fait une pige au PSG d'une saison. Après coup, bon, c'était pas forcément une bonne idée parce que ça s'était pas super bien passé, du moins sur le plan sportif, sur le plan humain. Voilà, on sait que Buffon a quand même une capacité à s'adapter. Qui est assez simple, mais c'est vrai qu'à Paris, sur le niveau sportif, on se rappelle de ses bourdes et voilà, ça a été assez compliqué. Moi, le souvenir que j'en ai, et tu me diras si tu es d'accord avec moi, Johan, c'est évidemment un énorme gardien qui marque vraiment ce rôle pour son époque. Beaucoup de gardiens d'ailleurs le citent en tant qu'exemple.
Oui.
Sa leadership, évidemment, sur le terrain. Et pour ses coéquipiers, et j'ai envie de te dire même dans un match, combien de fois on l'a vu, tu vois, c'est par les adversaires. C'est vrai que Buffon a toujours eu cet air, comment dire, gentil, qui a fait aussi son charme. C'était vraiment voilà le bon gars qui séparait des joueurs qui se bagarraient, et même ceux de son équipe, il n'hésitait pas à les remonter, à leur dire arrêtez.
Bah.
Et pareil pour vas-y, dis-moi.
Bah, on se souvient aussi, Guillaume, que lors des rares crises, on emploie vraiment rares, son juste terme, mais des rares crises à la Juve, celui qui parvenait à retourner le vestiaire, à ramener de la cohésion, à regonfler à bloc ses coéquipiers, c'était Buffon, accompagné aussi de Chiellini, qui a un rôle majeur là-dedans, mais Buffon était vraiment la pierre angulaire du projet de la Juve et aussi de cet état d'esprit Juve, de cette famille Juve, de cet état d'esprit Juve. Et c'est vrai que c'est un marqueur très important dans ce club-là. Et le fait qu'il y retourne, c'est peut-être pas un hasard. Peut-être que, au-delà du record de Maldini qu'il peut atteindre, au-delà de peut-être gagner une Ligue des Champions, c'est peut-être qu'il ne s'est aussi jamais aussi bien senti que dans ce club-là.
Exactement. Et tu vois, dans mes notes, j'ai mis aussi, ça rejoint ce que tu dis, c'est que sa personnalité faisait l'unanimité.
Ouais.
Tant à la Juve, évidemment. Que j'ai envie de te dire, même chez les autres joueurs, dans le monde football, la personnalité de Buffon, évidemment, est appréciée de tous. Et comme je te dis avant, c'est un gardien qui a marqué vraiment toute une génération. La petite anecdote sur Buffon, alors je ne sais pas si elle est forcément connue, mais c'est vrai qu'en fouillant un peu comme toi dans les archives pour Zidane, alors c'est Buffon qui le raconte dans une interview où il dit, quand il signe à la Juve, Ancelotti à l'époque le contacte, il lui promet qu'il sera là quand il arrivera. Sauf que Ancelotti à Juve, ça se passe pas super bien. Et du coup, Ancelotti s'en va. À l'été où Buffon arrive. Et du coup, ils se sont jamais côtoyés à la Juve. Et deux ans après, Ancelotti sur le banc du Milan gagnera la Ligue des Champions contre Buffon et la Juve.
Et oui. Et comme quoi, final, les promesses de certains entraîneurs à des joueurs au moment du mercato, c'est pas toujours
exactement
évident de suivre ses promesses, puisque l'instabilité du poste d'entraîneur fait que la durée de vie d'un entraîneur dans un club est de plus en plus courte.
Et tu vois, Johan, alors pour le petit jeu, j'ai essayé de me voilà, et je te le propose aussi, de poser la question, si on devait retenir une parade de Buffon de sa carrière. Moi, il y en a une, alors c'est pas avec le maillot de la Juve, mais bon, il était allé quand même à l'époque de la Juve, c'est quand même 2006, évidemment, l'arrêt sur Zidane de la tête.
Oui.
Je pense que c'est là, tu vois, que j'ai compris que l'Italie allait gagner la Coupe du Monde parce que Zidane de la tête en finale de la Coupe du Monde après 98, tu te dis que s'il marque là, clairement c'est fini. Et Starek sort cette claquette, cette manchette qui est exceptionnelle, la réflexe. Voilà, pour moi, ça restera quand même sa plus belle parade. Alors, il y en a eu tellement que c'est compliqué de choisir. Je ne sais pas si toi, tu as un souvenir, même au-delà d'un arrêt, mais c'est un souvenir de Buffon comme ça qui te revient. Mais c'est vrai que tu vois, moi, c'est vraiment la finale 2006 avec l'Italie.
Alors, aussi surprenant que ça puisse paraître, mon premier souvenir comme ça qui me vient à l'esprit, au-delà de cet arrêt sur Zidane qui est évidemment important et dont on a beaucoup parlé puisque c'est un arrêt déterminant à ce moment-là du match. Figure-toi que c'est son premier match avec Parme contre le Milan.
Ouais.
Donc ça devait être en 95 si je dis pas de bêtises. Et en fait, il a je sais pas, il doit avoir j'ai peur de dire une bêtise, mais il doit avoir 17 ans je crois ou quelque chose comme ça. Et en fait, il fait un match monstrueux contre une grosse équipe de Milan et de mémoire, ça fait un 0-0 à la fin du match. Et c'est à partir de ce moment-là que, dès son premier match, en fait, la presse s'est totalement emballée pour lui. En disant, ok, on tient un phénomène, et ce mec-là va être le portier, enfin, c'est le futur entraîneur de la nationale. Et effectivement, il s'était pas trompé, et vraiment, le premier souvenir qui me revient, c'est ça. Le deuxième souvenir qui me revient, c'est, lui au milieu de terrain lors du Scudetto de la Roma, puisque le dernier match c'est Roma-Parme 3-1, et en fait il y a une invasion de terrain avant le coup de sifflet final et les joueurs se retrouvent littéralement en slip au milieu de terrain parce que les supporters viennent leur arracher les maillots, les shorts, les chaussettes, enfin tout, et Buffon se retrouve torse nu en short au milieu de terrain à discuter avec des joueurs de la Roma. Et ça montre aussi le... Voilà, c'est quelqu'un qui s'agaçait assez rarement. Tu vois, un envahissement de terrain comme ça où tu te fais dépouiller, etc. Bah non, lui, il a simplement les bras croisés au milieu de terrain, en train de discuter avec des joueurs de la Roma, tranquillement. Voilà, c'est un joueur... moi, j'appréciais son calme. On dit souvent que les gardiens ont besoin d'être assez... Enfin, qu'il y a beaucoup de gardiens qui ont... une espèce d'excentricité importante parce que c'est un poste particulier qu'il faut montrer, impressionner l'adversaire et ça et tout ça, et lui je trouve qu'il avait pas ça, il avait une espèce de flegme britannique qui détonnait un peu à ce poste là et c'est vraiment un gardien qui aura marqué l'histoire, un peu comme un Iker Casillas, je trouve. Évidemment. C'est évidemment deux grands gardiens de cette génération là avec des profils un peu identiques.
C'est un peu le même genre de profil, même de personnalité. Exactement. Au-delà du joueur, je pense que la seule fois où il a perdu son calme, c'est probablement après le match face au Real. Récemment, je me souviens quand en jeu d'interview, c'est vraiment la première fois où je le vois vraiment à la limite au bord des larmes. D'ailleurs, avec à l'époque Ronaldo qui le console. Voilà, vous l'avez dit, les fameuses phrases que l'arbitre avait une poubelle à la place du cœur. Et c'est vrai que c'est peut-être la seule fois, à cause du pénalty, évidemment, parfait, l'histoire siffle en fin de match, qui était plutôt limite, qui élimine la Juve alors qu'elle gagnait 3-0. Donc, c'est vrai que c'est la seule fois où on a vu vraiment Buffon vers les pédales. Parce que si on sa carrière, honnêtement, il était quand même la personne qui réglait les conflits, qui apaisait les choses sur le terrain.
Et puis un vrai leader charismatique, tout simplement.
Exactement.
On passe au numéro 3 de notre classement, et alors là, c'est un énorme flop. Alors ça ne dira peut-être pas grand-chose aux très jeunes qui nous écoutent, mais c'est Gaizka Mendieta, qui passe de Valence à la Lazio pour 48 millions d'euros, un montant très très important. C'est le deuxième joueur le plus cher de l'histoire de la Lazio derrière Crespo, qui arrive pour 56 millions d'euros à ce moment-là. Crespo, c'était en 2000, en provenance de Parme. Alors, ce qu'il faut rappeler un petit peu de contexte rapidement, à l'époque, la Lazio, c'est la Lazio de Sergio Cragnotti, qui dépense énormément d'argent pour avoir un club compétitif, et ça marche puisqu'il gagne le Scudetto en saison 99-2000. À la fin de la saison, donc la saison 2001-2002, sa société va faire faillite. Donc sa société, c'était Cirio, qui était aussi le sponsor maillot. On se souvient tous de ce maillot bleu ciel avec ce sponsor là dessus.
Évidemment.
Et il doit laisser le club aux mains des banques pour éponger une partie de sa dette. Mais voilà, jusqu'à ce moment là, c'est lui qui a financé la grande Lazio entre guillemets. Mendieta, il arrive, il a une réputation de dingue, il est dans une équipe de Valence qui est hyper performante, finaliste de la précédente Ligue des Champions, tu sais, c'est la période des Canizares, Kili González, Angulo, Ayala, deux fois élu meilleur milieu de terrain UEFA de l'année. Enfin, voilà, il arrive avec une réputation extraordinaire. C'est un milieu très technique, avec un très bon jeu long, des passes verticales royal. Et c'est justement pour ça qu'on se disait que c'est typiquement le joueur de joueur qu'il fallait à la Lazio à ce moment-là. Une capacité à se projeter qui lui permettait de marquer beaucoup de buts, qu'il était aussi excellent sur les coups de pied arrêtés. Et en fait, à la Lazio, bah, tout va de travers très rapidement. Il s'acclimate pas vraiment au championnat. On sait que, encore peut-être plus à ce moment-là, entre la Liga et la Serie A, on est sur deux types de championnats totalement différents. La Serie A est ultra tactique à ce moment-là. Elle l'est encore, mais à ce moment-là, dans les années 90, c'est incroyablement fort à ce niveau-là, avec des entraîneurs de très grande qualité. On laisse aussi moins de marge de manœuvre, du coup, au milieu de terrain relayeur. Il parvient pas à s'imposer. Il joue une vingtaine de matchs de Serie A. Il a des petits problèmes physiques aussi. La Lazio, de son côté, elle souffre des départs de Vérone et de Nedved. On va y revenir un peu plus tard. Mais Nedved aussi, victime collatérale, entre guillemets, du transfert de Zidane au Real, puisqu'il va finir à la Juve. La Lazio finit sixième. Il est prêté direct au Barça, puis à Middlesbrough, et quitte la Lazio en 2004 en étant libre, parce qu'il parvient à résilier son contrat alors qu'il arrivait 3 ans auparavant. Bon, Mendieta, c'est sans doute... Pour moi, tu vois, si on me dit aujourd'hui, cite l'un des plus gros flops de l'histoire de la Serie A, je pense que le premier nom qui me vient, c'est Mendieta. Parce que les attentes étaient très importantes et qu'il était dans une phase de sa carrière où il avait totalement explosé. Parce que le montant de son transfert, surtout 48 millions d'euros pour un milieu de terrain à l'époque, il faut quand même se rendre compte qu'à l'époque, c'est comme si un joueur est transféré pour 90-95 millions d'euros aujourd'hui. Et aussi parce que cette équipe de la Lazio va totalement achever ce cycle-là dans les mois qui suivent son arrivée, avec justement la fameuse banqueroute de l'entreprise de Cragnotti, le président de la Lazio. Et ensuite, une période assez trouble où la Lazio doit vendre tous ses meilleurs joueurs, notamment les Alessandro Nesta, etc. Donc voilà pour Gaizka Mendieta. Et on va encore parler de la Lazio dans le joueur suivant, Guillaume, puisqu'on parle, je l'ai évoqué juste avant, de Juan Sebastián Vérone, qui passe, oui, lui, exactement, donc de la Lazio à Manchester United. Et c'est d'ailleurs ce transfert-là qui peut quasiment rembourser à 100%, entre guillemets, l'investissement fait sur Mendieta.
Et pour combien? Voilà, c'est ça qu'il faut que tu me demandes. Pour combien?
43 millions d'euros, Vérone part à Manchester.
Exactement. 43 millions d'euros pour Vérone à Manchester. Alors, il faut évidemment rappeler que Vérone, avant de partir à United, avait joué aussi pour Parme.
Oui.
Avec qui il remporte la Coupe d'Italie, la Coupe de l'UEFA.
Avec Crespo, je crois, si je dis pas de bêtises.
Exactement. C'est un des joueurs, tu vois, dont on se souvient du Grand Parme, hein. Oui. C'est évident. La Lazio, à l'époque, avait acheté 38 millions de lire pour le mercato. Il y retrouve notamment Mancini après avoir joué avec lui à la Samp, donc tu vois, en tant que joueur, là il le reprend en tant qu'entraîneur, donc c'est aussi assez drôle. Avec la Lazio, son palmarès à Vérone, c'est un Scudetto, c'est une Super Coupe d'Europe, une Super Coupe italienne et une Coupe d'Italie, donc c'est quand même un joli palmarès.
Pas mal, ouais.
Ouais, voilà, parce que c'est vrai qu'à la Lazio, on n'a pas forcément aussi connu qui raflait les coupes. C'est vrai qu'à l'époque, c'était une belle Lazio, et c'est vrai que Vérone lui a permis aussi de se sublimer. Quelle trace il laisse à la Lazio? Alors, tout d'abord, on peut dire aussi que au-delà de la Lazio, Vérone reste aussi dans le panthéon du foot argentin.
Oui. Hein,
parce que c'est un joueur évidemment international, et que ça s'est aussi répercuté avec l'Albi Céleste. Il a marqué une génération. À la Lazio, on s'en souvient évidemment comme l'élément moteur du jeu.
Oui.
Tous les ballons passaient par lui. Tu vois, j'ai même relu des interviews de ses coéquipiers, de ses entraîneurs, qui disaient vraiment que c'était la plaque tournante, comme on dit, du jeu à la Lazio. Évidemment, il avait un gros sens tactique, une belle technique. Il était pragmatique, tireur de coup franc, long ballon. Pour faire simple, il savait un peu tout faire.
Ça frappe de balle, Guillaume.
Évidemment. Bah, tu vois, tu me l'as enlevé.
Ouais.
C'était ma phrase suivante, sache-le. Je l'avais marqué dans mes notes, c'est vrai. Évidemment, ça frappe de balle.
D'une puissance folle.
Qui était assez singulière. Et en plus, oh là, la puissance, en plus, tu vois, la précision, ouais, sa technique. Enfin, c'était vraiment un joueur à qui il manquait quand même pas grand-chose. En plus, c'était un joueur aussi charismatique, tu vois.
Une vraie tête d'assassin.
Ouais, voilà. Ce qu'il dégageait sur le terrain,
ouais,
c'était quand même assez exceptionnel. Donc c'est vrai que c'était un joueur très particulier. Évidemment, qu'on s'en rappelle, je pense que tous les tifosi de la Lazio qui nous écoutent seront d'accord avec ça. Et je disais aussi une interview d'Eriksson qui disait qu'il lui laissait beaucoup de liberté.
Ouais.
C'est un joueur qui avait besoin, voilà, d'air, de liberté, qui n'avait pas besoin de restrictions. C'est un joueur qui devait jouer libre dans la tête et en dehors. Et pour l'anecdote, Avec Janovic, qui évidemment fait aussi partie des meilleurs tireurs de coups francs de l'époque, et j'ai envie de te dire même de l'histoire.
De l'histoire, ouais.
Voilà, Mihajlovic était quand même quelque chose aussi. Et je disais que pendant les entraînements, avec Marc et Gianni notamment au but, qui est désormais consultant sur Sky, ils s'entraînaient les deux. Ils se faisaient des duels, Mihajlovic et Veyron, jusque tard le soir. Ils s'entraînaient avec Marc et Gianni, qui essayaient en vain probablement de les arrêter. Mais voilà, c'était vraiment deux joueurs, Mihajlovic et Veyron, qui continuaient à bosser jusque tard le soir sur les coups francs. Et on a vu que ces essais, ces entraînements à rallonge ont porté leurs fruits pendant les matchs.
Et ce qui est dommage avec Veyron, c'est que son départ de la Lazio, c'est quasiment le... On va pas dire la fin de sa carrière, mais à United, il a clairement pas le même impact.
Non.
Quand il part à United, ça doit être la consécration, parce que la Lazio reste un club important, et à ce moment-là, c'est un club très fort, mais il rejoint un club immense, Manchester United. Donc, tu vois quasiment en lui un potentiel ballon d'or, et en fait, alors il fait ses matchs, il est titulaire, mais c'est pas le même niveau, c'est pas il a pas la même importance dans le jeu d'United. Et après, derrière, quand tu regardes ce qu'il a fait, bon, il part à Chelsea, il joue pas. À l'Inter, il joue, mais c'est pas un titulaire indiscutable, et c'est clairement pas le joueur le plus influent de l'Inter à ce moment-là. Et direct derrière, il retourne en Argentine. Donc, la Lazio, en finale, ça a été le meilleur moment de sa carrière. Là où il a été le plus performant et le plus important pour un club, et le plus fort, tout simplement. On passe au numéro 5, Guillaume.
Allons-y.
Avec un milieu de terrain portugais que j'adorais, parce qu'il était de ses numéros 10 élégants, toujours la tête haute. Pas le plus rapide, on en parlera. C'est Rui Costa qui passe de la Fiorentina à Milan pour 42 millions d'euros.
Écoute, la première chose qu'on peut dire sur Rui Costa, et je suis curieux de savoir si les auditeurs et toi-même vous êtes comme moi, c'est la première chose dont je me souviens de Rui Costa, c'est les chaussettes baissées. Les chaussettes baissées, c'est la marque de fabrique de Rui Costa. Moi, j'ai eu la chance, hein, voilà, parce que je suis vieux et jeune quand même, j'ai 28 ans, donc j'ai eu quand même de la chance de le voir à l'époque, même du stade, même petit. Et c'est vrai que tu vois, j'ai vraiment ce souvenir de ses chaussettes baissées, de sa gestuelle qui était aussi particulière. Alors, comme tu l'as dit, il a coûté 42 millions d'euros. Il faut savoir qu'à l'époque, Berlusconi, c'est quand même son plus gros transfert.
Ouais.
Jamais il avait dépensé autant pour un joueur. Donc, c'est vraiment le plus gros transfert du Milan et à l'époque, évidemment, de l'ère Berlusconi. Avec Milan, c'est 192 matchs. C'est une Ligue des Champions, c'est une Coupe d'Italie, c'est une Super Coupe d'Europe, c'est une Serie A, c'est une Super Coupe d'Italie. Donc, c'est aussi un joli palmarès. La petite curiosité, c'est qu'il a mis deux saisons avant de mettre son premier but. Donc, c'est vrai que ça a été assez long. Et c'était un peu, tu vois, le running gag dans quelques temps, à savoir mais quand même quand Rui Costa allait marquer son premier but. Il faut dire aussi qu'il avait marqué aussi son passage à la Fiorentina. Hein. On parle vraiment de l'été 2001, mais la Fiorentina, ça sort aussi l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la Fio. Mais voilà, si on parle là que du Milan, c'est vrai qu'il avait mis du temps à ne pas s'adapter. Il a mis deux saisons à marquer son premier but. Et ça reste évidemment un joueur exceptionnel. Moi, je suis un peu comme toi. Je me souviens quand même d'un joueur très technique et encore, c'est l'émotion faible. Sa gestuelle, ses passes millimétrées. Moi, j'ai dans les yeux une passe qu'il fait pour Shevchenko en Ligue des Champions contre le Real Madrid. Un régal, un bijou. Je pense que c'est une des plus belles passes. D'ailleurs, je vous la conseille. Une des plus belles passes que j'ai vues de ma vie. Qui est vraiment magnifique, millimétrée avec Casillas qui est dans les buts du Real.
Et maintenant, c'est une passe de Çalhanoğlu pour Leao.
Disons que
c'était juste pour te rappeler la réalité d'aujourd'hui.
Les époques sont différentes. Ou alors de Bilia, par exemple, pourquoi pas.
Oui.
Pourquoi pas. Et voilà, la force de Rui Costa, je trouve, si à la Fiorentina, c'était une tête d'affiche, et ça a été aussi à Milan.
Ça a été le capitaine aussi de la Fio. Hein.
Exactement. Ce qu'on peut apprécier à Milan, c'est qu'il a su aussi se mélanger. Mm-hmm. Un collectif de stars, c'est quand même une autre réalité. À l'époque, le Milan de Berlusconi, qui va gagner avec des champions en 2003. Donc, il a su aussi se sublimer dans ce collectif de grands joueurs, avec Shevchenko, avec Inzaghi, on en parlera après, avec Seedorf, avec Gattuso. Enfin, c'était quand même l'un des plus grands Milan aussi, hein, après le Milan Sacchi. Ce qu'on peut dire aussi de l'empreinte qu'il laisse chez les supporters du Milan, et je les invite aussi à réagir là-dessus, savoir ce que eux pensent de Rui Costa, les souvenirs qu'ils en ont. Moi, j'ai noté, par exemple, c'était vraiment un joueur qui a fait tombé amoureux San Siro. C'est-à-dire que San Siro adore ce genre de joueur, a toujours aimé ce genre de joueur. C'est un joueur très technique, très élégant. C'est un joueur très élégant. C'est vraiment très beau à voir, très esthétique. Et voilà, San Siro était vraiment amoureux de son génie, amoureux de Rui Costa. Et ce qui est appréciable aussi, c'est la personnalité qu'il avait. Tu vois, c'est quand même une personne qui faisait pas de frasques, qui était très, très polie, très lisse.
Oui, très lisse. Très poli.
Voilà, il était vraiment, c'était vraiment un joueur, j'ai envie de te dire. Alors, le joueur parfait n'existe pas, mais au niveau de la personnalité, de comment il était en dehors, de comment il était sur le terrain, c'est vraiment un joueur qui a été exceptionnel aussi, évidemment, avec sa sélection. Et Kaka, tu vois, j'ai relu une interview de Kaka, Ballon d'Or du ministère avec Milan, qui disait, mais j'ai quasiment tout appris de Rui Costa, et il l'appelait le professeur, tellement il avait d'admiration pour Rui Costa. Petite anecdote, qui est assez rigolote, c'est quand il était à Benfica, Rui Costa, ils ont affronté la Juve dans un quart de finale de la Coupe de l'UEFA en 92-93, terminé 3-0 pour la Juve, pour la précision. Et dans les dernières minutes, Rui Costa, qui était un fan de Baggio, a fait exprès, et il l'avoue, de jouer près du banc de la Juve, parce que Baggio était sorti à la mi-temps. Et si tu veux, Rui Costa voulait à tout prix la note Baggio. Et comme le match à la fin était un peu, était fini à 3-0, et ben, il s'est dit, je vais rester près du banc de la Juve, parce que j'ai peur que mes coéquipiers me volent le maillot de Baggio. Du coup, il a essayé de coup de siffler final, il est allé voir Baggio. Il a récupéré son maillot. Et il faut savoir que depuis le jour-là, à chaque fois que Baggio et Costa ont joué contre, eh ben, ils se sont toujours changés de maillot.
Eh ben, écoute, très belle anecdote sur Rui Costa. Et juste ce qu'on peut préciser aussi, c'est que c'est aussi autant la Lazio va finir plus ou moins en faillite à cause de son propriétaire. La Fiorentina va subir un peu le même sort quelques années plus tard, et Rui Costa, c'est un transfert aussi qui déchire le cœur des Florentins, parce que la saison d'avant, ils avaient perdu déjà Baptiste Tuta, qui était parti à la Roma, et Rui Costa, nouveau capitaine après le départ de Baptiste Tuta, quitte le club un an plus tard pour tenter de sauver le club financièrement, essayer de ramener un peu de liquidité, et c'est vraiment un transfert qui... ouais, aujourd'hui, les Florentins, malheureusement, ils ont des départs qui... Leur joueur majeur, entre guillemets, quand ils partent, ça a été toujours un peu compliqué. On se souvient de Baggio parce qu'il part à la Juve, et on se souvient de Batistuta qui part à la Roma et de Rui Costa qui part au Milan. Ça a été un vrai crève-cœur à chaque fois pour eux, mais c'est aussi dû à la position de la Fiorentina qui ne pouvait pas lutter aussi économiquement avec tous les gros clubs italiens. Et donc les grands joueurs étaient amenés à un moment ou à un autre à quitter la Fio pour aller tout simplement chercher des clubs capables de gagner des trophées. On passe au numéro 6 et numéro 7, alors je vais les lier un petit peu, c'est Lilian Thuram et Pavel Nedved, qui passent respectivement pardon, de Parme à la Juve pour 42 millions d'euros pour le défenseur français, et de la Lazio à la Juve pour 39 millions d'euros. Ça fait partie, avec Buffon, des trois joueurs qui arrivent pour faire une équipe plus forte que celle qui existait avec Zidane. C'est de l'argent qui... Si aujourd'hui on me demande un mercato parfait, dans l'histoire des mercato, j'ai envie de leur citer la Juve en 2001, parce que certes ils perdent leurs joueurs stars, et on se souvient tous que ça faisait tous les gros titres de toute la presse européenne, ce transfert de Zidane au Real, et donc c'était aussi du marketing perdu, parce que Zidane il vendait beaucoup de maillots, c'est aussi médiatiquement un gros coup derrière la tête, mais derrière, ce qu'ils parviennent à faire en recrutant trois joueurs majeurs qui vont être là pendant entre 5 et 10 ans au plus haut niveau, et qui vont amener la Juve au plus haut de l'histoire de ce club. Thuram, ce qu'on peut dire, c'est qu'il était titulaire indiscutable, évidemment, à la Juve, d'abord comme latéral droit avant de passer en charnière centrale, ce qui a fait qu'ensuite, il était toujours latéral droit en sélection, mais en charnière centrale en club. Et il a largement contribué, évidemment, au résultat de la Juve. Les trophées, alors pour Thuram, on est à 2 Scudetti, ainsi que 2 annulés, 2 Supercoupes italiennes, une finale de la Ligue des Champions qui n'est pas un trophée, mais je préfère quand même le préciser. Du côté de Pavel Nedved, on a aussi 2 Scudetti et 2 annulés. Ce qu'on peut préciser quand même sur ces deux joueurs, c'est que Nedved reste, on l'avait cité tout à l'heure rapidement, en série B lorsque la Juve descend, qu'aujourd'hui il est devenu un dirigeant de la vieille dame, et que c'est, allez, on va dire, l'une des trois figures les plus importantes de la Juve hors terrain, derrière évidemment Agnelli qui en est le président, et derrière Paratici qui est un peu plus dans opérationnel au niveau de la stratégie transfert du club. Nedved est un peu entre Agnelli et Paratici à ce niveau-là. Mais voilà, c'est une figure emblématique. Ça fait partie aussi des clubs italiens qui donnent des responsabilités à leurs anciens joueurs. Nedved, c'est évidemment un ballon d'or. Et c'est la Juve qui lui a inculqué cette rigueur. On sait que Nedved, déjà la Lazio, c'était très fort, hein, Nedved. C'était un joueur redoutable qui avait des dribbles courts assez dévastateurs, qui pouvait jouer aussi bien en rentrant sur son pied droit que partir extérieur sur des dribbles, donc il était très difficile de défendre face à lui, qui avait une énorme frappe de balle coup de pied. Ça, c'était une qualité incroyable, qui était très vif. C'était un joueur incroyable, mais qui était un joueur... J'ai pas envie de dire d'à coup, parce que ce serait un peu lui faire insulte, parce qu'il était quand même mieux que ça, mais qui manquait un peu de régularité. Et une fois qu'il arrivait à la Juve, bah, à la Juve, t'as pas le choix. Être bon, c'est une obligation. Donc à partir du moment où t'inculques ça et que tu réponds présent, bah, ça veut dire que tu dois être bon à chaque match, que ça soit sur le terrain du 18e ou en quart de finale de la Ligue des Champions. C'est un joueur hyper élégant. Moi, je trouve que c'est un des joueurs qui m'a le plus marqué techniquement en Serie A, de ce que j'ai pu voir, un peu comme Rui Costa aussi, dans un style totalement différent. Voilà, pour moi, c'est un des plus grands joueurs de la décennie 2000-2010 de Serie A. Et c'est surtout un joueur qui m'émerveillait parce qu'il était capable d'être auteur de gestes vraiment remarquables et surtout de buts spectaculaires. Et c'est vrai que quand t'es un peu plus jeune, ce qui te marque le plus, c'est quoi ? Bah, c'est quelques gestes techniques et des frappes de loin, en gros. Et il était tout à fait capable de ça. Et c'est vraiment un joueur qui a marqué le championnat italien et qui a aussi marqué la Juve, puisqu'il est aujourd'hui l'un des dirigeants de ce club. On passe à notre huitième de la liste, parce qu'on est déjà comme à 40 minutes de podcast. Et je vois la liste encore derrière, donc je me dis, on va accélérer un peu, mais bon, on va quand même essayer de dire tout ce qu'on a.
J'ai même pas eu le temps de parler des larmes de Nedved après sa faute sur McManaman, qu'on conclura en 2003, qui restera quand même aussi l'un des...
Puisque ça le prive.
Ouais, ça le prive de la finale. Et exactement. Pour le passer contre Milan. Ça reste l'un des moments les plus forts quand même de Nedved, au-delà de tout ce qu'il a fait évidemment de bien, mais c'est vrai que cette image où il est en larmes à genoux, ça restera une image très forte.
C'était le côté injuste aussi à l'époque de cette de la règle qui pouvait te priver de finale parce que tu avais pris un deuxième carton jaune, qui peuvent être parfois un peu bêtes, comme le carton qu'il avait pris lors de cette demi-finale. Pippo Inzaghi, Guillaume, notre bon Pippo. Alors Pippo, c'est marrant parce que dans l'esprit des gens, il reste vraiment marqué, très identifié à Milan. Mais il vient de la Juve à l'époque en 2001, exactement, contre 36 millions d'euros.
Exactement, 36 millions d'euros de la Juve à Milan. Alors il fait partie d'un circuit, on va dire, où Zenoni part à la Juve, Comandini va à l'Atalanta, et du coup Inzaghi arrive à la Juve. Alors l'anecdote de Mercato, je la fais d'entrée, c'est que à l'époque, il y avait le fameux trophée Berlusconi, tu te souviens, l'été.
Oui.
C'était un peu le match amical. Et du coup, à l'époque, donc pendant Milan-Juve, Berlusconi-Galliani, le fameux tandem de l'époque, ils vont voir Inzaghi tous les deux. C'est Inzaghi qui le raconte. Hein. J'étais pas présent, hein. On va pas se mentir. Inzaghi raconte, il dit, Berlusconi et Galliani sont venus me voir et ils m'ont dit, écoute, viens à Milan et crois-nous, on va tout gagner avec tous tes buts. Écoute, preuve en est que l'histoire leur donne raison, parce que Pippo à Inzaghi à Milan, c'est quand même 300 matchs et 126 buts. Et dont des buts évidemment très importants. On se souvient des deux qui met contre Liverpool en 2007 en finale des champions, où Milan gagne son 7e trophée.
Et il le marque comment, ce but?
Le premier, il le met sur un coup franc de Pirlo de l'épaule.
Voilà,
alors qu'il se trouve dans le mur, ce qui est quand même génial. Et le deuxième, c'est cette passe de Kaka en profondeur où il dribble Reina et ce ballon éternellement lent qui file dans les buts de Liverpool.
Voilà. Y a-t-il un but plus Pippo Inzaghien quand même que ce premier but?
C'est vrai.
C'est vrai. Incroyable.
Et il en a mis un nombre incalculable dans les derbies aussi, comme ça, où il était dans le mur et il déviait à chaque fois. C'était quand même exceptionnel. Donc le palmarès de Pippo Inzaghi, c'est quand même deux championnats, c'est une Coupe d'Italie, c'est deux Super Coupes d'Italie, c'est deux Ligues des Champions évidemment avec Milan, 2003-2007, deux Super Coupes européennes et deux mondiales, deux Coupes intercontinentales pour faire simple. Alors, il faut dire qu'Inzaghi en 2003, il ne connaît pas une période facile parce que, bah, si on résume, il y a eu un claquage au mollet. Enfin, j'ai fait une petite liste, claquage au mollet, fracture de la cheville gauche, fracture de la main, tendinite au genou.
Ah oui.
Donc tu vois, et ça a été une période assez compliquée pour Inzaghi. Malgré tout, voilà, sa force de caractère fait que Il arrive à revenir au sommet malgré tous ses déboires. L'apogée, évidemment, bah, tu vois, c'est 4 ans plus tard, quand il marque ses deux buts contre Liverpool. L'histoire et le charme du football font que, quand il arrête son dernier match, donc Milan Novara, l'Atlético de Milan, je m'en rappelle, parce que c'est la Ligue des Sénateurs, voilà, avec Zambrotta qui arrêtait,
Nesta.
Avec Nesta qui arrêtait, voilà, c'est vraiment la Ligue des Sénateurs. Inzaghi rentre, parce qu'Allegri ne le fait pas jouer titulaire. Il n'y a pas forcément des bonnes relations entre les deux d'ailleurs. Et Inzaghi, et Allegri fait rentrer Inzaghi, il y avait un. Et du coup, évidemment, Inzaghi rentre. Et évidemment, il marque sur un ballon en profondeur. Où tu vois, pour l'histoire qui est quand même incroyable, c'est que cette action du but d'Inzaghi, c'est tous les sénateurs, tous ceux qui arrêtent, qui touchent le ballon avant ouais. le but d'Inzaghi. C'est quand vrai. Même assez, c'est assez incroyable. Et voilà, ça résume aussi un peu la carrière de Inzaghi. On s'en souvient. Comme un numéro 9, mais comment dire, un finisseur, c'est vraiment le tueur, c'est
un ballon dans la surface qui traîne et c'est terminé.
Exactement, c'était un attaquant, on va dire, exceptionnel dans son style. Ferguson disait de lui, c'est la phrase qui est hyper connue, oui. Il disait quand même, Inzaghi est né hors jeu.
Ouais.
On peut pas lui donner tort, mais c'est vrai que c'était un incroyable finisseur. Il était peu académique parfois, parce que c'est vrai que c'est pas sur l'attaquant comme Shevchenko, son compère qui frappait par exemple de 30 mètres. Et qui mettait un but, mais Inzaghi, en tout cas, rappelle-toi celui contre Lyon en Ligue des Champions, quand ils éliminent Lyon, qu'il y a un partout, Lyon croit qualifié, et sur un long ballon d'Ambrosini en fin de match, il y a ce poteau-poteau de Shevchenko, et c'est Inzaghi qui vient voler le ballon à Kaka, parce que Kaka aurait mis le but, et il va lui voler le ballon sur la ligne, et c'est lui qui a marqué. Enfin, voilà, Inzaghi, c'est un joueur qui était dans son style. Qui était quand même exceptionnel, toujours là au bon moment. Un ballon traîné, comme tu as dit, et c'est lui qui finissait. Voilà, c'était
un neuf à l'ancienne qui ne vivait que par le but.
Exactement. On a connu alors ce genre de joueur. Alors, si on peut comparer, alors, même s'il était un peu plus technique, tu vois, un peu comme Raoul. Tu te rappelles à l'époque, avec Raoul, il y avait une concurrence en Ligue des Champions où les deux, alors aujourd'hui, tu as les deux extraterrestres qui ont battu tous ces records, mais c'est Ronaldo. Mais c'est vrai qu'à l'époque, même si Raoul était quand même un joueur un peu différent, mais
oui, parce qu'il pouvait plus participer au jeu quand
bien
même.
Sûr,
Raoul,
que... Bien sûr, bien sûr.
Je trouve que Inzaghi ressemblait un peu plus à Van Nistelrooy, par exemple.
Oui, par exemple, c'était vraiment un finisseur. Alors, on pouvait pas demander à Inzaghi de faire le jeu, mais il y avait ça, qu'il y avait ce duel à l'époque avec les champions de savoir qui allait marquer le plus de buts, pardon. Mais voilà, c'est vrai qu'Inzaghi, il a révolutionné aussi un peu son poste d'attaquant à sa manière. Voilà, c'est un finisseur. Mourinho a toujours dit qu'il craignait beaucoup Inzaghi, il avait raison. Je me rappelle, le Milan avait affronté le Real Madrid, il perd 1-0. Inzaghi rentre, il gagne 2-1. Voilà, c'est avec double d'Inzaghi. C'était vraiment un joueur particulier, mais exceptionnel avec son style. Donc, voilà, je sais pas si toi, t'as un souvenir d'Inzaghi.
Moi, c'est évidemment le but en finale de Ligue des Champions qui marque de l'épaule du dos. Pour moi, c'est ce but symbole d'Inzaghi. C'est-à-dire que tout le monde va te dire sur ce coup-là que c'est de la chance. Mais c'est tout sauf de la chance, c'est que le mec va dans le mur pour les perturber et ensuite fait un mouvement pour se dire au cas où le ballon est repoussé, et ben j'arriverai devant tous les autres et je la mettrai au fond. Sauf que là, il a même pas besoin de faire ça.
Je pense qu'on peut demander aux supporters adverses, il était tellement énervant Inzaghi pour les équipes jouaient contre parce que il était toujours là, il marquait des buts. On y a vulgairement tu vois de rapace, mais c'est vrai que c'était vraiment ce joueur un peu énervant qui mettait des buts improbables. Et c'est pas de la chance. Il était là au bon moment parce qu'il sentait. Il sentait qu'il devait être là et qu'il allait marquer. Voilà. Ça restera un joueur quand même exceptionnel et qui évidemment marque l'histoire de l'Italie, de la Serie A et de Milan.
Alors, le numéro 9, on a parlé tout à l'heure de Gianluigi Buffon comme étant l'un des plus gros espoirs du football italien à ce moment-là. Le numéro 9, c'est Antonio Cassano qui passe de Bari à la Roma pour 29 millions d'euros. Alors on va tout de suite commencer par l'anecdote parce que ça résumera assez bien sa carrière. C'est dans une interview. Je me souviens plus dans quel média italien c'était. Elle avait été donnée. Je parlerai même pas de son autobio avec son nombre de femmes et ce genre de choses là. Enfin de ses conquêtes. Mais il avait tout simplement expliqué que s'il avait écouté les conseils de Francesco Totti à l'époque, il aurait fait une autre carrière.
C'est vrai.
Il faut savoir que Cassano et Totti étaient très amis, mais vraiment très amis. Totti l'a pris sous son aile. Lorsqu'il arrive à Rome, parce que c'était pas évident, il était très jeune. Il a même habité chez Francesco Totti. Il voyait régulièrement les parents de Francesco Totti, qui lui donnaient aussi des conseils. Le problème de Cassano, c'est qu'il a jamais eu la tête comme il fallait. et notamment la tête pour faire une grande carrière. Et ça a été le plus grand talent du football italien. Pendant 3-4 ans, ça a été exceptionnel. Parce que c'était... Alors on parlait d'Inzaghi comme un pur numéro 9. Cassano était loin d'être un pur numéro 9. C'était un espèce de 9,5 qui pouvait tourner autour d'un attaquant, qui pouvait même jouer comme attaquant unique, mais en dézonant, en créant des espaces pour les autres, pour tes ailiers, pour ton numéro 10 qui jouait derrière. C'était un joueur, moi je trouve, un des joueurs qui m'a le plus marqué, parce qu'il était jeune à l'époque. Il a d'abord été utilisé sur un côté, puis après l'échec Batistuta, il revient dans l'axe. Tapez simplement, je vais éviter de faire trop long, mais tapez simplement Totti Cassano sur YouTube, et vous verrez la connexion qui existait à ce moment-là entre les deux joueurs, qui se trouvaient les yeux fermés, mais vraiment les yeux fermés, dans toutes les situations sur le terrain, du jeu en une touche de balle, des actions extraordinaires qui allaient au fond ou pas. Mais c'était, voilà, c'est, au final, ça reste, si c'était l'un des plus gros espoirs, ça reste aussi l'un des plus gros gâchis du foot italien. Peut-être avec un joueur comme Mario Balotelli, par exemple. Son manque de rigueur, évidemment, qu'on note. Son manque de professionnalisme, ça, c'est évident. Quand il avait pas envie de s'entraîner, bah, il s'entraînait pas. Ou quand ça le saoulait, bah, c'est fait Philippe Mexès qui racontait une fois, dans une interview aussi, qu'un jour, Cassano avait pas envie de s'entraîner. Et ben, en fait, pendant que les autres faisaient des tours de terrain, lui, il prenait des ballons, puis il tirait sur ceux qui faisaient des tours de terrain. Voilà, ça résume un peu la folie du joueur qui a tout misé sur son talent en pensant que ça suffirait. Ouais. Et malheureusement, qui a perdu son pari. Donc après 4 grosses saisons à la Roma, et disons que son manque de professionnalisme lui coûte sa place, et la Roma cherche à le vendre. Il part au Real, et puis voilà, c'est déjà malheureusement la fin de sa carrière. Il se passe ensuite plus grand chose. Malgré des retours à Milan, à l'Inter, bon, il se passe quand même pas grand chose. Finalement, c'est en terminant à Parme où ça se. À la Samp, il fait une grosse saison à Parme, mais bon, on n'est plus dans les hautes sphères du football italien. Là, on est un peu comme Balotelli qui redescend au niveau Brescia, quoi. On est sur le statut de la rédemption et de retrouver un club pour rebondir. Mais le problème, c'est que pour Cassano, le mal était fait et c'était compliqué de rebondir derrière. Donc voilà, trophée, une super coupe d'Italie. Hein. Donc bon, on va pas chercher loin non plus.
Voilà, comme t'as dit, pour faire bref, parce que c'est vrai qu'on est déjà en retard, on le sait. Pour faire bref, Cassano, moi j'ai tellement de choses qui me viennent. Tu vois, je voulais parler de son but contre l'Inter avec Barry, tu vois, qui a fait tout basculer. Ouais. L'imitation de Capello qui le fait virer au Real. Voilà, tapez Capello, Real, Cassano sur YouTube, et vous verrez l'imitation qui fait que le Real, le vire.
Enfin, voilà, il y a un doublé contre la Juve et lors d'un 4-0 mémorable.
Oui. Voilà. Je regardais, tu vois, en ce moment, il y a le Festival du Sport à Trento. Il y a Paolo Condo, un grand journaliste de la Gazzetta dello Sport, une grande plume, qui racontait que, peut-être en souvenir, le Roma Sampdoria, où la Roma perd le
bien
titre.
Bien sûr.
La Roma de Spalletti et Cassano avant le match.
De Ranieri.
Et Cassano Pacini, c'est un peu le duo magique de la Samp. Et Cassano, avant le match, va voir son ami Totti et lui dit tu vas voir, on va te faire perdre le titre ce soir. Et après match, du coup, bah voilà, la Samp gagne 2-1, si je ne m'abuse. Oui. Et Cassano va dans le vestiaire de la Roma, donc il rentre dans le vestiaire de la Roma, hein, qui est complètement dépité. C'est Condo qui le raconte, il rentre dans le vestiaire de la Roma et il dit à Totti, à Francesco, il dit hey, Francesco, tu vois, je te l'avais dit. Et tu vois, tous les coéquipiers de Totti attendent qu'il lui mette une gifle, faut qu'il, tu vois, il réagisse. Et Totti, au bout de 10 secondes, lui dit bon, écoute, voilà, oui, t'as gagné, mais bon, va rentrer dans ton vestiaire parce que sinon, voilà, ça va mal se passer. Et du coup, là, ça nous rend, mais tu vois, c'était vraiment le folklore.
Ils s'étaient brouillés un peu les deux d'ailleurs, hein. Ils ont été en froid pendant quelques temps, alors que, disons que c'est un peu Cassano qui a été ingrat à un moment donné. Et quand tu vois tout ce que Totti a fait pour lui lorsqu'il était à la Roma, c'était un peu compliqué, mais depuis, ils sont rabibochés.
Mais c'était un gâchis, il y a un mot d'ailleurs, hein, il faut le lire pour ceux qui ne le savent pas, s'il y a un mot qui est écrit en italien, c'est le castanate.
Castanate.
Voilà, ça veut dire c'était les frasques de Cassano, les castanate. S'il y a un mot, je pense qu'on peut résumer, c'est gâchis. Ouais,
exactement. Gâchis. Notre numéro 10 est japonais, il s'appelle Hidetoshi Nakata, et pour moi, c'est pareil, c'est un joueur dont j'étais amoureux. Ouais. Un peu le délire du numéro 10, pareil, qui te trouve des lignes de passe incroyables, qui a une qualité de frappe aussi, qui est capable de mettre des frappes de 25-30 mètres sous la barre, un joueur élégant, pas le plus rapide, pas le plus fort physiquement, mais pas le plus fin tactiquement, qui passait à travers, qui était pas toujours titulaire, mais quand il était sur le terrain, c'est des choses comme ça qui s'expliquent pas, c'est que tu flashes sur un type de joueur, et Nakata, que ce soit à la Roma, que ce soit à Parme, c'est un joueur que j'ai toujours adoré. C'est un joueur de rotation à la Roma. Il part de la Roma pour rejoindre Parme à 28 millions d'euros lors de cet été 2001. Il a été décisif dans le Scudetto de la Roma grâce à un doublé. Ça, c'est l'anecdote, contre la Juve. En fin de championnat, la Juve mène 2-0 à Turin contre la Roma. Et la Roma, finalement, accroche le match nul 2-2. Nakata marque un but. Et sur le deuxième, Nakata fait une énorme frappe que contrôle mal notre ami Van der Sar, de mémoire. Et c'est Montella qui marque dans le but ensuite. Mais voilà, c'est un numéro 10 qui a eu la malchance, je pense, de tomber dans le club de Francesco Totti. Et que quand ton numéro 10 c'est Francesco Totti et que tu joues qu'avec un seul 10, bah, tu peux pas lui prendre sa place, c'est tout simplement impossible. À Parme, il joue plus, il est décisif dans la victoire en Coupe d'Italie en 2002. Mais sa meilleure période, on va dire que c'est son année à la Roma et le début à Parme, sans doute. Il a joué à Perugia aussi, à l'époque où le club signifiait quelque chose, entre guillemets. On va dire ça pour pas être trop méchant. La valeur du transfert, moi, je la trouvais excessive parce que c'était un joueur de rotation. Mais elle s'explique par autre chose. Nakata, c'était une idole marketing. À l'époque, faut quand même se souvenir que fin des années 90, début des années 2000, Nakata au Japon, c'est une superstar. Bon, il l'est toujours aujourd'hui. Mais vraiment, c'est de la valeur d'un Messi en Argentine, quoi. C'est vraiment un joueur. Toutes les marques se l'arrachent pour faire de la pub. Tous les journaux veulent des interviews de lui. Et ces maillots s'arrachent par dizaines, centaines, par milliers de ces clubs. Donc du coup, de Perugia, de la Roma, de Parme ensuite, de la sélection évidemment. Donc voilà, son transfert il est exagéré parce que quelque part t'achètes aussi la valeur médiatique et marketing du joueur. Son palmarès à la Roma, c'est un scudetto et c'est déjà au final pas si mal quand tu as joué à la Roma. On passe au numéro 11, Guillaume, un autre gardien, je sais pas, je crois qu'on en a encore un après de gardien, si je me souviens bien, le deuxième gardien de la liste, qui est notre ami Francesco Toldo, qui passe de la Fiorentina à l'Inter pour 27 millions d'euros. Donc encore un joueur de la Viola qui quitte le club lors de cet été 2001.
Exactement. Donc voilà, Toldo, c'est quand même 9 saisons à l'Inter, hein. C'est pas rien. C'est 9 saisons, c'est 12 trophées, et c'est notamment un doublé Super Coupe en 2006. Alors tu vois, Matoldo, évidemment, tu vois, tout de suite, je l'associe à l'Inter, et j'essaie de retrouver des vidéos de ces matchs. Ouais. Bon, à l'époque, j'avais 14-15 ans, donc je ne me souviens pas de tout. Et tu vois, je suis tombé notamment sur alors les supporters de l'Inter doivent s'en rappeler, de son match contre Valence en quart de finale de la Ligue des Champions en 2002-2003, où il fait une performance quand même assez exceptionnelle. Et de ce que je disais un peu, tu vois, sur les forums du supporter de l'Inter, il disait vraiment que c'était peut-être voilà, l'une des plus grandes performances à regarder sur un match. C'est vrai qu'il a été, en le voyant, assez exceptionnel. Il est compilation, on porte pas ses arrêts. Évidemment, Toldo aussi. Alors, je sais que toi, tu vas t'en rappeler. Et ceux qui l'ont pas vu, je te conseille d'avoir, c'est son but face à la Juve.
Ouais.
En octobre 2002. Alors, il y a un petit quiproquo parce que, alors donc, la Juve mène un corner en fin de match, Toldo décide de monter et sur une espèce de cafouillage il y a un but, et c'est vrai qu'on a l'impression que Toldo marque, et finalement tu pourras vérifier, le but accordé à Vieri, donc les deux, tu vois, se chamaillent un peu gentiment.
Quelle injustice.
Voilà, parce qu'ils sont amis. Et tu vois, regardez une interview de Toldo récemment qui disait, mais il a même pas touché le ballon Vieri. Et là, Toldo en fait réclame ce but, évidemment, et pour un gardien quand même assez, comment dire, assez singulier. Et c'est vrai que voilà, le but est quand même accordé à Vieri, alors que Toldo, lui, voilà, le continue à réclamer aujourd'hui. C'est quand même 226 matchs, Toldo avec l'Inter. Il fait partie évidemment de la Hall of Fame, quand on dit de l'Inter. Avec l'Italie, tu vois, alors voilà, dans un contexte plus national, on se souvient évidemment de sa performance face aux Pays-Bas, à l'Euro 2000.
À moi, tu me dis Toldo, je te parle immédiatement de ce match-là.
C'est pour ça que tu vois.
C'est un des matchs les plus fous de l'histoire de l'Euro.
Exactement. C'est vraiment un souvenir. Moi, voilà, j'avais 9 ans, pas te mentir, donc je me rappelle pas grand chose, mais évidemment qu'avec le temps, tu vois, on nous apprend, on nous dicte, on nous fait regarder. Et c'est vrai que voilà, regardez ce qu'a fait Toldo entre les Pays-Bas en 2000. Si vous l'avez pas vu, on vous spoile pas. Mais je pense que voilà.
Mais on peut vous dire qu'il y a des pénalties, des tirs au but dans l'histoire.
Exactement. Et d'ailleurs, moi, est-ce qu'on peut spoiler le coup de cœur de Totti?
Bien sûr, ça, on a le droit.
Enfin, voilà, on a le droit de spoiler. Mais c'est vrai que voilà, j'avais noté quand même souvenir à chaque joueur. Mais toi, je peux pas, Toldo, ne pas mettre Italie-Pays-Bas 2000 parce que, comme tu as dit, c'est un des matchs historiques de l'Euro. Et ben... Donc, quand même, voilà, dire que Toldo, surtout, fait partie des plus grands gardiens de l'Inter et des légendes de l'Inter dans leur globalité.
Et bien, on continue dans ce Pays-Bas-Italie de l'Euro 2000, figure-toi, puisque notre numéro 12 est Jaap Stam, défenseur néerlandais qui passe de Manchester United à la Lazio en cet été 2001 pour 26 millions d'euros. Alors, petit spoiler, dans la séance de tir au but entre les Pays-Bas et l'Italie, Jaap Stam, comme on pouvait l'imaginer, envoie une sacoche, une énorme mine, une fusée sur la Lune lors de cette séance de tir au but, largement au-dessus de la barre. Alors, la Lazio qui avait perdu quand même des membres importants lors de ce mercato avec Vérone et Nedved, décide de quand même se renforcer malgré quelques débuts de difficultés financières avec Jaap Stam qu'il paye très cher. Il arrive de Manchester United. Au départ, on se dit, l'association Nesta-Stam, ça va être pas mal, parce que Nesta, dans le rôle de libéro, élégant, bon balle au pied, capable de faire démarrer le jeu de derrière, excellente relance, etc., il est là. Stam, il va être dans le profil du stopper, rude sur l'homme, ça on va pas se mentir, dans les duels. Et en fait, ça marche pas terrible. Il a des débuts très difficiles, des performances décevantes. Et il y a l'affaire Jaap Stam. Il est contrôlé positif à la Nandrolone. Après un match contre l'Atalanta lors de la 7e journée, il est suspendu 4 mois en appel. Il ne revient donc que mi-mars. Après le départ de Nesta la saison suivante, il s'impose dans la défense centrale avec notre ami Sinisa Mihajlovic, grand frappeur de coup de pied arrêté. Il est transféré ensuite au Milan pour 10 millions d'euros. Il gagne une seule Coupe d'Italie avec la Lazio. En gros, moi, je trouve que ça a été un échec de manière globale parce qu'on attendait beaucoup plus de lui, parce qu'il y a évidemment eu ce test positif à la Nandrolone qui a beaucoup écorné son image et aussi l'image de la Lazio. Exactement. Et qu'il n'a pas su s'imposer dans le championnat italien. Même après son passage au Milan, il y a des bonnes choses, mais globalement, il était un peu en fin de course aussi. À la Lazio, il s'est pas imposé comme on pouvait s'y attendre quand il arrive de Manchester United. Allez, on continue, on accélère un peu avec Marcio Amoroso, le fameux attaquant brésilien. Alors ça, c'est typique, le joueur, quand on me dit années 90, moins gros club, enfin, pas un grand club, etc. Je pense souvent à Marcio Amoroso, qui passe de Parme à Dortmund. Oui, c'est ça. Excellent. Vous noterez cette blague. 25 millions d'euros. Alors, il arrive de l'Udinese en 98-99 pour 28 millions d'euros. C'est l'Udinese qui le révèle entre guillemets aux yeux de l'Europe. Alors à Parme, il a une grosse blessure au genou qui lui pollue un peu la vie et qui va aussi un peu lui polluer la fin de sa carrière. Il marque 18 buts en 2 saisons, donc autrement dit, pour un transfert à 25 millions d'euros, c'est un peu compliqué, surtout que Parme avait eu des attaquants qui marquaient beaucoup de buts, comme un certain Hernan Crespo. Par exemple, il quitte. Alors, au niveau du profil, c'est un joueur rapide, polyvalent, qui pouvait jouer en neuf, mais aussi un peu sur les côtés. Il aimait bien prendre l'espace. Il pouvait tout à fait combiner de hauts buts. C'est un joueur technique, pas maladroit dans les petits espaces. Donc, c'était un Brésilien. Je vais pas dire sur la lignée Ronaldo, mais qui savait un peu tout faire comme Ronaldo, avec moins de vitesse que Ronaldo et moins d'excellence évidemment, mais qui était capable de tout faire quand même. Finalement, il quitte Parme pour 25 millions d'euros, donc il reste que 2 ans à Parme. Il rejoint Dortmund, il fait une grosse saison et demie de mémoire à Dortmund. Et puis derrière, c'est un peu plus compliqué. On avait l'impression que son physique l'a lâché assez rapidement, en fait. C'est surtout ça l'impression qu'on a eue. À Parme, il gagne simplement une Super Coupe d'Italie. Donc c'est un peu maigre, mais donc la Super Coupe d'Italie en 99. Puisqu'il arrive après la victoire de Parme en Coupe de l'UEFA 99. Puisque la Supercoupe se joue au mois d'août. Voilà, Guillaume, on passe aux 14 et 15. Stefano Fiore de l'Udinese à la Lazio et Marcelo Salas de la Lazio à la Juve. Les deux, 25 millions d'euros.
Exactement. Donc Fiore, évidemment, voilà, acheté en... Alors, faut savoir que Fiore est acheté un an avant et il arrive à la Lazio en 2001. Alors, il fait 3 saisons à la Lazio. 94 matchs, quand même 17 buts. La période dont on va dire l'apogée de Fiorentina Lazio, c'est 6 buts. C'est 6 buts entre la demi et la finale de la Coupe d'Italie gagnée par la Lazio en 2004.
Ouais.
Alors, il marque 6 buts, donc c'est évidemment probablement son meilleur moment à Lazio. Il faut savoir que Fiore, il a joué quasiment tous les postes, de milieu, relayeur, milieu central, piston droit, c'est quarti, il a quasiment tout fait. On va dire que c'est un joueur qui s'adaptait à ce qu'on lui demandait. Techniquement, il était quand même assez intéressant. Bon avec les deux pieds.
Il était vraiment pas rapide.
Exactement, voilà. Il était pas, on va dire que c'était pas le Usain Bolt, mais techniquement, il était pas mauvais. Il était moins avec les deux pieds, pas mal de passes décisives. Hein. Aussi, on s'en rappelle pour ça aussi à Lazio. Une belle frappe de loin, quand oui. même. Il est précurseur, l'arrivée du milieu un peu moderne, tu vois, de ce qu'on connaît un peu aujourd'hui. Mais bah, c'est vraiment un milieu de terrain qui savait tout faire. C'est pas le milieu le plus spectaculaire qu'on ait connu, mais c'était quand même un milieu très utile. Et il a quand même laissé une jolie trace à Lazio. Et ensuite, il est revenu en championnat où il a fait un passage à la Fiorentina, au Torino et à Livourne plus tard dans sa carrière. Quant à Salas, pareil, voilà, le joueur de la Lazio. Alors, il part à la Juve après 3 saisons avec la Lazio.
Oui.
Il marque 48 buts en 117 matchs. Il faut savoir que la Juve, bah, la concurrence. Alors, tu vois, j'ai retrouvé les papiers de Mercato à l'époque. C'est quand même assez drôle hein, de retrouver les papiers de l'époque. Voilà, on voit que la Juve, bah, la concurrence de Real et de Valence. Parce qu'il le paye 25 millions de lire, plus l'attaquant. Alors, je ne sais pas si tu te souviens de cet attaquant.
Alors, c'est Darko. C'est milliards hein, de lire, puisque c'était.
Milliards, oui, ouais. Milliards, évidemment. Je confonds avec les euros. Milliards de lire. Plus l'attaquant Darko Kovacevic.
Ouais.
Voilà, il faut le savoir, hein, qui était aussi dans le transfert. Alors, le problème, c'est que son passage à la Juve, Salas, il est marqué par une grave blessure au genou.
Et oui.
Voilà, qui conditionne évidemment son passage.
Même sa fin de carrière, honnêtement.
Oui, et sa fin de carrière plus globalement. Mais c'est vrai que, voilà, on peut pas ne pas parler de Salas à la Juve sans cette blessure qui a tout changé. Au total, c'est 18 matchs et 2 buts. Donc, tu vois, c'est quand même assez maigre. Il gagne quand même 2 Scudetti, une super coupe. Et l'anecdote de Salas, alors je pense que ceux qui suivent la Serie A et ceux qui suivent plus globalement la Juve, c'est le derby face au Torino en 2001-2002. Alors c'est un 14 octobre. Il faut savoir que le Toro perd des 3-0 et qu'ils arrivent à revenir à 3-3. Et en fin de match, il y a un pénalty qui se fait pour la Juve. Et c'est Salas qui décide de s'en charger. Et là, Riccardo Maspero, donc un joueur du Torino, il décide clairement, et d'ailleurs il l'avoue et on le voit, il sabote le point de pénalty.
Ouais.
Pour que Salas le rate, et ben ça n'a pas raté parce que Salas le tire au-dessus et voilà, et ça reste clairement l'image, tu vois, on se rappelle le plus parce que tu vois, la première chose que j'ai fait c'est taper Salas Juve et la première chose que j'ai vu c'est le penalty.
C'est un peu triste.
Avec, exactement, avec le sabotage de Maspero, voilà. C'est vrai que le passage de Salas à la Juve, on s'en souviendra pas pour forcément des grandes choses, mais en tout cas celui à la Juve était très bon. Ouais, c'est 48 buts en 17 matchs.
Honnêtement, moi, c'est, tu vois, on va accélérer un peu, mais honnêtement, pour moi, dis-moi. C'est une de mes plus grosses déceptions.
Ouais.
Parce qu'en fait, ce joueur, quand il était à la Lazio, tu disais, il peut aller très très loin. Parce qu'il était hyper complet, il a un vrai sens du but, une patte gauche remarquable. Et en fait, bah, cette blessure au genou, l'a totalement détruit au haut niveau. Et après, il est reparti à River Plate,
ouais,
et au Chili. Donc, sa carrière européenne était terminée. Et effectivement, c'est dommage parce que c'était un joueur hyper spectaculaire en plus, qui marquait des buts spectaculaires, qui était un acharné, tu vois, un mec qui lâchait rien, etc. Et oui, c'est dommage parce que c'est le type de joueur où tu te dis il va faire une grande carrière et une blessure malheureuse lui plombe totalement cette fameuse carrière. 16e, Robbie Keane. Alors ça, c'était le transfert un peu... ça a été un peu le transfert très étrange. Robbie Keane, qui était à l'Inter à l'époque, qui s'en va à Leeds pour 18 millions d'euros, sachant qu'il était prêté là-bas les derniers mois avant ce transfert. C'est un joueur qui a rejoint l'Inter, qui a été scouté à Coventry, à l'époque où il y avait encore un club de foot à Coventry, un club de foot marquant. Il débarque en 2000 pour une très grosse somme d'argent, alors qu'il y a franchement très peu de références au haut niveau. C'est un transfert très très étrange. Après, il était prometteur, mais bon, ça fait partie un peu de l'argent gaspillé par Moratti, on va dire ça comme ça. Il est réclamé par Marcello Lippi, malheureusement, bah, tu vois, on en parlait tout à l'heure pour Buffon et Ancelotti. Bah, Lippi se fait virer au bout de je sais plus combien de journées, et il est remplacé par Tardelli, l'ancien international italien, qui tout simplement ne lui fait pas confiance, et donc il ne joue plus, et il s'en va très rapidement. Enfin, déjà il faut dire que la doublette devant lui c'était Ronaldo Vieri, donc tu comprends quand il y a Ronaldo et Vieri devant toi que tu joues moins. Et il est 6 mois après son arrivée, il est cédé en prêt à Leeds, et il rejoint définitivement Leeds après 6 mois concluants pour 18 millions d'euros. Voilà, on fait assez court parce que c'est sans doute un des plus gros flops de l'histoire de l'Inter par son montant, son passage raté, les attentes qu'il y avait parce que c'était un joueur prometteur, etc. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou on enchaîne?
Écoute, non, je préfère me rappeler du Robikin, voilà, pas à l'Inter.
Hein, okay.
Parce que c'est vrai qu'on...
Le Robikin de Tottenham.
Le Robikin de Tottenham et avec sa sélection aussi. Hein,
okay.
Où c'était quand même bien meilleur.
Alors, 17e, Sergio Conceição, qui passe de Parme à l'Inter pour 17 millions d'euros. Il n'y a pas forcément grand-chose à dire sur lui. On va quand même évoquer le deal, comme seuls les Italiens savent le faire, évidemment. Et surtout à cette époque-là. Le joueur est changé. C'est un deal entre la Lazio et Parme, avec Crespo qui part d'un côté, et il y a Almeida et Conceição qui vont de l'autre. C'était aussi dans le deal de Sébastien. Alors ça, c'était dans un premier deal. Ensuite, dans le deuxième deal, il est avec Sébastien Frey, qui lui va à l'Inter. Sébastien Frey à Parme, pardon, et lui, Sergio Conceição, va à l'Inter. Frey, qui était victime de l'arrivée de Toldo, notamment, qui joue moins. Bon, il n'y a pas grand-chose à retenir. C'était un joueur de couloir qui était quand même assez doué, enfin, qui allait vite et qui avait une bonne technique de centre, notamment. On se souvient beaucoup de ses déboulés et de ses centres. Bon, son passage à l'Inter, il est raté, il est régulièrement blessé, il ne fait pas une place de titulaire dans l'effectif, il fait partie, tu sais, des fameuses recrues de l'Inter, les Farinos, Calonne, Dalma, Takanchukur, Okanburuk. Bon, c'est l'Inter du début des années 2000, en termes de recrutement, c'était un peu catastrophique. Il part ensuite à la Lazio et il retourne à Porto et ensuite au Standard de Liège. Il fait même 3 clubs en l'espace d'un an, donc c'est dire si sa carrière était déjà... compliqué à ce moment-là. Trophée avec l'Inter, 0 trophée. Voilà, passons au 18e, qui est incertain. Alors, bon, on va essayer de faire court, même si c'est pas simple avec lui. Andrea Pirlo passe de l'Inter au Milan pour 17 millions d'euros.
Exactement, et c'est un échange aussi, il faut le rappeler. Il y a Guglielmi Pietro qui fait le chemin inverse avec l'Inter. Donc voilà, l'opération totale se situe aux alentours de 17 millions, selon les médias. Donc évidemment, Pirlo n'a pas rappelé qu'il avait été replacé en 6 par Carlo Mazzone. Tu t'en souviens,
ouais.
Tu t'en souviens, Johan, lors d'un prêt à Brescia. Alors la première saison était compliquée à Milan pour Pirlo et sa carrière, on va dire, ou du moins sa carrière à Milan change complètement avec l'arrivée d'Ancelotti. Et d'ailleurs, Pirlo le dit. Tu vois, j'ai noté une déclaration où il dit je dois tout à Carlo Mazzone et Carlo Ancelotti. Les entraîneurs les plus importants de ma carrière avec Ancelotti, j'ai pu m'exprimer pleinement dans ce rôle car il m'a fait confiance. Alors qu'il disposait de joueurs bien plus expérimentés. Et c'est vrai que Pirlo numéro 6, ça a été, on peut dire, une révolution. Voilà, c'était un joueur atypique. Il savait tout faire. Il a inventé, alors c'est Fabio Caressa, un commentateur en Italie, qui l'a renommé la maledetta, ce coup franc, comment dire, frappé avec un coup du pied, avec un effet, comment dire, retombant particulier. Je sais pas comment dire, mais c'était, voilà, en Italie, on l'appelle la maledetta, en gros, la maudite. Et voilà, Pirlo s'en souvient pour ses longues transversales, ses passes millimétrées. Évidemment que beaucoup de milieux de terrain aujourd'hui, notamment le numéro 6, évidemment, le prêt en exemple, une intelligence hors norme, une qualité technique, comment dire, au-dessus du lot, et même singulière, j'ai envie de dire, parce que Pirlo, c'est quand même un style bien à lui, très élégant, évidemment. Alors avec Milan, ce palmarès, c'est quand même 2 Ligue des Champions. Il gagne la Coupe du Monde avec l'Italie en 2006. Il est 2 fois champion d'Italie, 4 fois avec la Juve. Alors, en tous ces 401 matchs et 41 buts. Donc voilà, c'est pas non plus trop mal pour un milieu. Moi, je vous conseille un but qui marque à Parme avec le milieu du Milan qui est exceptionnel. Il est excentré à gauche à 35 mètres, une trajectoire voilà, improbable. Elle est indescriptible tellement elle est particulière. Voilà. Donc, allez sur YouTube, tapez Parme Milan Pirlo et vous l'aurez tout dit avec Ronaldinho après qui fait signe. Waouh, quel but il vient de mettre. Donc voilà, si Ronaldinho le dit, c'est que c'est un but exceptionnel. Et voilà, Pirlo, je pense que tu as un peu du mal avec moi. En deux mots, c'était quand même un joueur qui a révolutionné quand même le poste numéro 6 dans le sens où, avec son élégance, avec son style, avec son jeu et surtout, évidemment, avec ses passes, était un joueur, j'ai envie de te dire, unique.
élégance et quarterback, j'ai envie de dire. Voilà,
oui, c'est... exactement, c'est quarterback, t'as raison.
Il savait tout faire, une vision du jeu hors du commun, une qualité technique, voilà, t'as tout dit parfaitement. Et je précise juste pour Carlo Mazzone, qui a marqué quand même beaucoup de bons joueurs italiens.
Bien sûr.
Notamment Francesco Totti, qui, c'est Mazzone qui l'a plus ou moins lancé à la Roma, qui lui a vraiment donné sa chance, alors qu'il était très jeune. Et Totti en dit beaucoup de bien, Pirlo en dit beaucoup de bien, Baggio en a dit du bien aussi, puisqu'il a terminé à Brescia, et que Brescia, on se souvient de, je crois que c'est à Brescia quand, est-ce que c'est à Brescia ou, ah, j'ai un doute maintenant, ou c'est dans un club où il fait une course, il arrive à sauver le club au d'un moment. C'est à Brescia, c'est ça?
C'est à Brescia lors d'un derby où il court vers les supporters, c'est ça, avec le doigt. Une scène géniale.
Alors qu'il était déjà assez âgé.
Exactement, c'est une scène exceptionnelle.
Exactement. Alors, on va ensuite passer après Andrea Pirlo. Parce que Pirlo, on pourrait faire des heures, on y reviendra peut-être un jour.
Bien sûr.
On va passer à... Alors là, c'est l'un des plus gros flops de l'histoire du Milan. On a fait ceux de la Lazio et ceux de l'Inter. On va passer à Ravi Moreno et Cosmin Contra, les deux joueurs qui passent d'Alaves au Milan. Alors 15 millions pour l'un, 7 millions pour l'autre. Et on va quand même préciser juste le contexte rapidement. Alaves vient d'atteindre la finale de la Coupe de l'UEFA, perdu 5-4 face à Liverpool et avait été l'auteur d'une épopée européenne incroyable qui a sans doute permis ce transfert, enfin ses transferts, et ça s'est pas bien passé, Guillaume.
Comme tu l'as dit, ça fait partie quand même, Ravi Moreno, des gros flops de l'histoire récente et même de l'histoire tout court de Milan. Alors Ravi Moreno, le pauvre, on peut dire aussi qu'il a pas eu de chance parce qu'il est tombé sur la doublette Inzaghi-Sheva, qui est pas simple. Et plus, il faut s'en rappeler. Je vais te dire, moi je m'en souvenais pas, tu vois. J'ai en retournant les archives, je m'en suis rappelé. C'est le retour de Marco Simone.
Oui.
Tu vois, qui est revenu. Et du coup, forcément, c'est encore un peu moins de place pour Ravi Moreno. Donc, ça n'a pas été simple pour lui au niveau concurrence. Donc, son bilan, c'est 16 matchs et 2 buts en Serie A. On a connu mieux. Il repart après une seule saison. Il va à l'Atlético. Mais voilà, comme tu l'as dit, je pense que l'Atlético est bien sur l'accord. Ça fait quand même partie des très gros flops au vu de l'achat et au vu aussi des attentes qu'on aurait pu avoir. Mais on va dire que entre la concurrence et... Et ce qu'il a pu apporter à Milan, ça a été trop compliqué pour lui. Quant à Contra, alors c'était un peu mieux. Arrière droit, c'était un peu mieux pour lui. Il fait 29 matchs et 3 buts. En une saison, il repart aussi en fin de saison. On s'en souvient surtout à Milan pour son but dans le derby contre l'Inter, un fameux 4-2. Et voilà, il marque, il me semble même, alors je crois qu'il enlève son maillot. Voilà. Enfin bref, c'était son apogée en une saison à Milan. Il faut savoir qu'il avait fait la prépa estivale avec Milan, du coup, quand il s'en va. Ça, c'est l'anecdote de Mercato. Alors, après la saison, du coup, il fait la prépa estivale. Tout le monde pense qu'il va rester à Milan, sauf que, lors du trophée Berlusconi, encore une fois, tu vois, il s'en passait des choses à ce trophée Berlusconi. Il se bat avec un certain garde à vite. Voilà, ils se battent. Mais quand je te dis qu'ils se battent, c'est qu'ils se battent très fort. C'est-à-dire qu'il y a des crachats, il y a du sang, ils se frappent dans les vestiaires, ils se frappent en dehors. C'est vraiment une bagarre qui a fait une très très grosse bagarre. Et forcément Berlusconi, qui n'accepte pas qu'on fasse ça pour un trophée qu'il y a à son frère, et plus on va dire, dans la charte de Milan, à l'époque il y a quand même un certain style à adopter, un certain code d'honneur, et évidemment qu'en se battant autant avec David, Contra a dépassé, et après cette énorme bagarre, Milan décide de le vendre. Alors qu'il a fait toute la prépa estivale avec le club. Et il s'en va, et on va dire dans l'anonymat, parce que sa saison n'avait pas non plus été exceptionnelle. Mais c'est vrai que tu vois, même si c'était un peu mieux que Ravi Moreno, je ne peux pas te mentir, Ravi Moreno contre ça fait quand même un peu la doublette. Et du côté du Milan, on préfère se souvenir de Inzaghi-Sheva, de l'attaquant, plutôt que de Ravi Moreno, attaquant contre arrière-droit, pour lequel ça n'a vraiment, vraiment pas marché.
Alors, on aurait pu vous parler ensuite de Mohamed Kallon, par exemple, qui est parti de Vicenza à l'Inter. Ouais. Dont le seul fait d'arme à peu près, c'est d'avoir été positif à un contrôle antidopage en 2003. On aurait pu vous parler de Marco Materazzi qui passe de Pérouse à l'Inter cet été-là, après une excellente saison 2000-2001 à Pérouse, avec notamment 12 buts marqués, bon, dont 7 pénaltys, c'était le tireur officiel de pénalty, qui faisait partie des leaders de l'Inter pendant des années, qui était une top recrue de l'Inter, vu le montant investi, les services rendus et les trophées gagnés. On aurait pu vous parler de Martin Djetou, qui passe de Monaco à Parme pour 10 millions d'euros, arrivé pour remplacer Lilian Thuram, Et c'est très compliqué en Italie, ce sera un flop malheureusement pour lui. Il part en prêt ensuite à Fulham et à Nice. On aurait pu vous parler aussi d'Ivan Pelizzoli, le gardien qui passe de l'Atalanta à la Roma pour 15 millions d'euros. Mais oui, exactement, qui fait une saison incroyable en 2003-2004 avec Capello, la dernière année de Capello à la Roma où la Roma termine à la seconde position. Mais on va se concentrer, aller encore sur trois joueurs, Guillaume. On fait en premier rapide. Edwin van der Sar, tu en as parlé tout à l'heure, quitte la Juve pour Fulham. Son passage à la Juve est très compliqué. Ça fait partie des choses qui peuvent arriver même à un très grand joueur qui n'arrive pas à être performant dans son nouveau club, qu'il le sera ensuite vraiment à Fulham et ensuite aussi à Manchester United. Il arrive pas si jeune que ça à la Juve. Il arrive de l'Ajax en 99. Il a fait les belles épopées des années 90 à l'Ajax. Et puis, à la Juve, ça se passe pas bien. Ses performances sont décevantes, qui contribuent pas vraiment aux performances de l'équipe. Donc, la Juve décide de faire venir Gianluigi Buffon pour plus de 50 millions d'euros. Son trophée à la Juve, c'est une Coupe Intertoto. Voilà. Guillaume, je te laisse parler d'Adriano qui passe de Flamengo à l'Inter.
Adriano, alias l'empereur. PES 2006, alias PES 2006 qu'on a tout pris à l'époque. il était beaucoup trop fort et beaucoup trop surpuissant. Donc voilà, c'était PES 2006. Alors Adriano, il arrive en janvier 2001. Non, je dis n'importe quoi. Non, c'est mes notes qui étaient mal notées. Janvier 2001. Résumons. Pour résumer, l'Inter.
C'est pas simple cette affaire.
Exactement, voilà, tu vois, je me suis remis les pinceaux un peu comme à l'époque, à mon avis, les clubs. Pour résumer, l'Inter achète Stéphane Dalma, au PSG, et en échange, Vampeta fait le chemin inverse, le fameux Vampeta, il part au PSG et l'Inter garde 50%. C'est les fameuses copropriétés entre les deux clubs. Le PSG décide de vendre Vampeta en fin de saison à Flamengo. Et là, Flamengo propose aux deux clubs, et au PSG du coup,
une affaire en or.
une affaire en or. Il y a un échange, voilà. C'était un peu comme dans Apprendre à laisser à l'époque avec Arthur.
Mon Dieu. Tu viens de baisser d'un seul coup en termes de références, Guillaume, c'est dramatique.
Sauf que là, les boîtes étaient ouvertes. Et dans une boîte, il y avait Adriano, voilà. Et dans l'autre boîte, il y avait Ronaldo. Et le PSG, qui avait le flair, décide évidemment de miser sur Ronaldo. Et l'Inter, qui avait 50% des droits de Vampeta, du coup, récupère Adriano. Alors Paris, on va pas se mentir, a un peu raté son coup, sauf que l'Inter, avec Adriano, le réussit. Au début, Adriano arrive à l'Inter, il enchaîne un prêt à la Fiorentina, qui ne pourra pas sauver la relégation en 2001-2002. Ensuite, il va à Parme, et c'est là ça commence, l'explosion commence pour Adriano. C'est 24 buts pour 37 matchs disputés en une saison et demie, donc c'est quand même un ratio assez important pour un attaquant. Janvier 2004, donc mercato dernier, il revient à l'Inter, il prend le numéro 10, et il marque 9 buts en une demi-saison. Donc voilà, on voit tout de suite que c'est un joueur qui va apporter beaucoup au Nerazzurri. Et l'apogée, évidemment, d'Adriano à l'Inter, c'est entre 2004 et 2006. On s'en souvient tous. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille d'aller le voir. C'est son but face à l'Udinese à San Siro après un rush solitaire exceptionnel. Où on voit toutes les qualités d'Adriano. Il est puissant. Il était même rapide. Enfin, c'était vraiment un joueur très fort, et voilà, c'est un peu un but qui résume sa carrière.
Tiens, Guillaume, San Siro a vu deux buts exceptionnels à ce niveau-là en termes de slalom, de dribbler toute une défense, toute une équipe même. D'un côté, donc, Adriano, tu viens de le dire, ouais. Et de l'autre, Mr. George Weah.
Évidemment.
Avec le Grand Milan, voilà, c'est même chose, hein. Évidemment. Faites un tour sur les plateformes vidéo. Et chercher le but de Weah avec Milan, c'était...
Et Adriano, en palmarès, c'est 74 buts en 177 matchs, avec 8 trophées, donc c'est pas trop mal. Il y a une parenthèse ratée, alors plus tard dans sa carrière, à la Roma.
Ah oui, oui, mais en même temps, il est arrivé, il faisait 108 kilos. Donc,
exactement, on va parvenir évidemment sur ces...
Pour la petite anecdote quand même, j'insiste, parce qu'elle est belle celle-là, il le faisait courir en plein cagnard, quand il faisait 40 degrés à Trigoria, en plein soleil, avec un kawé, pour qu'il perde du poids lors de ses courses, parce qu'il était à plus de 100 kilos sur la balance.
Voilà. Adriano, voilà, on le sait, c'est vrai que ça a été compliqué ensuite, quand il a commencé un peu à aller vers le bas, au niveau du poids, au niveau de retourner au Brésil, c'est pas super bien passé.
Des fiestas, de l'alcool.
La déchéance a été assez rude, quand même connaître avec certains Brésiliens.
Hein, à la hauteur des attentes qu'on avait aussi. Hein.
Exactement, exactement. Mais c'est vrai que voilà, on s'en rappelle pour un joueur surpuissant, pour sa énorme force de frappe, ses dribbles. C'est un vrai buteur, mais c'est aussi un joueur très technique. Ça reste un attaquant, tu vois. Moi, j'étais ado, et je m'en souviens, parce qu'il m'a vraiment marqué, parce que c'était, tu vois, comme je l'ai dit tout à l'heure, un joueur qui marque par sa façon de jouer, par les buts qu'il mettait. Ouais. C'était vraiment un attaquant qui a réussi à l'Inter, mais on reste quand même sur une pointe d'amertume parce que, moi, je pense, et je pense que tu es d'accord, il aurait pu avoir une carrière meilleure.
Énorme.
Avec les qualités qu'il avait.
Tiens, si on fait notre... Alors, on ne va pas le faire aujourd'hui, mais elle aurait belle allure, notre attaque. Cassano, Adriano, des plus gros gâchis de l'histoire de la Serie A.
C'est pas faux.
Voilà, bon, c'est comme ça, mais Adriano reste évidemment un joueur exceptionnel qui nous a vendu du rêve pendant longtemps et qui nous a surtout vendu beaucoup de déceptions ensuite, ouais. Mais parce qu'on en attendait beaucoup et forcément... Il avait des qualités physiques qui étaient tout simplement monstrueuses pour un joueur de football. Et voilà, la vie n'a pas suivi comme il fallait son cours, son chemin normal qui était tout tracé pour la gloire. Malheureusement, il a choisi une autre voie, celle de profiter, voilà, de Exactement. Profiter de la vie.
Exactement.
Imagine Adriano avec la rigueur de Cristiano Ronaldo, par exemple. Et là, on aurait eu un phénomène avant l'heure. Dernier joueur qu'on va évoquer, Christian Panucci, qui passe de Monaco à la Roma. Alors, c'est simplement 5 millions d'euros. C'est pas forcément un transfert hyper marquant à ce moment-là, encore que Panucci est un joueur important, évidemment, de la sélection nationale, est un joueur important parce qu'il a fait tous les plus grands clubs, déjà, le Milan, le Real, notamment. Il vient de Monaco où il s'est clairement pris la tête avec Didier Deschamps, tout comme Marco Simone. Ils ont été les deux bannis de Didier Deschamps assez rapidement. Ils sont sur la liste des indésirables. La Roma le recrute et il devient un titulaire indiscutable, un leader. Il porte même plusieurs fois le brassard sous Spalletti quand il y a des absents. Évidemment, ça veut dire quand les Romains ne sont pas là. C'est un vrai défenseur buteur. J'ai compté quand même. Il fait deux saisons... à plus de 5 buts en Serie A avec Spalletti, et dans l'ère Spalletti à la Roma, il met quand même 24 buts en 4 saisons. Donc c'est quand même costaud pour un défenseur, sachant qu'il ne tire pas les coups francs, qu'il ne tire pas les pénaltys. Avec la Roma de Spalletti, il gagne 2 Coupes d'Italie, il part en 2009 à Parme, donc il fait 8 ans à la Roma. Donc c'est en ça que c'est important, c'est que ça a été un pilier de la Roma des années 2000-2010. Pour un montant de transfert très faible et qu'il a apporté vraiment, ça faisait partie des joueurs qui ont apporté une certaine forme de, qui ont réussi à bousculer l'environnement de la Roma. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que la Dolce Vita, la romaine, très peu pour Panucci, qui avait un très fort caractère, une vraie discipline de joueur de foot, et un peu comme les Nicolas Bourdisseau ensuite, qui avait beaucoup de grinta et qui apportait ce côté un peu chien. Qui a souvent manqué à la Roma et qui manque encore ces dernières années au club. Voilà, on arrête là parce qu'on a encore d'autres noms, mais ce serait un peu compliqué. On est déjà à 1h30 de podcast.
Ça devait Alors, être une... on avait prévu 1h, il faut le dire.
Voilà, au final, Guillaume, on était parti sur un podcast de 2h au total.
Au total, avec celui d'actu.
Voilà, donc là, en actu plus... plus la partie thématique, on va être à 3h45. Donc c'est
générosité
largement...
quand tu nous tiens.
Exactement, c'est largement suffisant. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ces parties ouais. thématiques. On est évidemment preneurs, on essaie de trouver des sujets un petit peu originaux. Et puis, ou n'hésitez pas d'ailleurs aussi si vous voulez
nous proposer
ouais. des sujets que vous aimeriez nous voir traiter, qu'on pourrait évoquer tous ensemble. N'hésitez pas, on est évidemment preneurs de toutes vos idées et de toutes vos remarques. On se dit donc rendez-vous première semaine de novembre, Guillaume, où on fera un nouveau point sur l'actu avec encore pas mal de choses évidemment à dire. On débriefera les premiers matchs de Stefano Pioli. On verra si l'Inter de Conte parvient à maintenir la cadence ou si les quelques blessures qu'on voit apparaître ci et là vont réduire la profondeur de banc et donc vont mettre en difficulté Antonio Conte. On verra si Maurizio Sarri parvient à inculquer cette idée de jeu. Et si on réussira à avoir une qualité de jeu aussi importante dans les matchs à venir que ce qu'on a vu contre l'Inter, où on a vu vraiment les débuts du Sarri Ball made in Juve, On parlera aussi peut-être des blessures de la Roma, peut-être qu'il y en aura d'autres, ou peut-être que ça ira mieux, hein, n'est-ce pas? Et puis on parlera évidemment de la Fiorentina, de la Lazio, du Genoa, de la Sampdoria, de l'Atalanta. Enfin bref, vous en avez l'habitude sur le podcast de référence du football italien. Guillaume, merci à toi et on se donne donc rendez-vous le mois prochain.
Salut, salut à les tous. Gars.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president. You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.